On a pas mal de documentation, et ça continue d'ailleurs, sur la manière dont les Amérindiens d'Amérique du Nord font ce qu'on appelle leur pow-wow, etc. Eh bien, on peut dire que c'est leur manière de faire de la politique. Et c'est aussi un art de composition, c'est-à-dire que les humains ne sont jamais seuls réunis. L'ensemble des rites qu'allumaient, etc., sont là pour convoquer ceux avec qui il faut penser, et qui sont des non-humains, des invisibles, mais dont la présence fait qu'on parlera, un peu comme dans l'ordre du monde, du palabre, que l'on parlera autrement, parce qu'on n'est pas entre humains. Donc il y a une artificialité cultivée, de contraintes cultivées, qui fait qu'on n'est jamais dans l'ordre du débat, mais dans l'ordre de... Nos paroles ne nous appartiennent pas véritablement. Et c'est pour cela qu'elles peuvent se composer alors que nous ne savons pas comment. On quitte le projet politique pour le processus politique.
Oui, encore une fois, parce que vous insistez, vous liez composition là au fait qu'il y ait aussi des non-humains, ça, oui. Implicitement, ça ramène aussi, encore une fois, cette question d'hétérogénéité.
Ben, ça ramène une question que je dis toujours, on a donné à la situation le pouvoir de nous rassembler. C'est pas une situation, c'est une situation peuplée, avec mais une phrase que personne n'a dite, avec laquelle il faut penser, c'est quelque part aussi un non-humain. Parce que justement, elle n'a pas de dénonciataire qui collerait à cette phrase. Donc, donc effectivement, s'il y a composition entre les humains, c'est parce que ça passe aussi par des formes de rites, des formes de présence active, qui peuvent être de toutes sortes de choses, parce que c'est justement leur efficace à transformer les rapports entre humains qui est le point. C'est pas sont-ils dignes ou pas, mais il y a moi je quand je lis des trucs sur comment faisaient les Indiens, je pense que éventuellement c'est les colons américains, quand ils ont compris que, d'une manière ou d'une autre, les peuples indiens fonctionnaient sans chef, sans hiérarchie, qu'ils ont, enfin, c'est un grand mystère au XVIIIe siècle, pourquoi la démocratie, qui était une catégorie mal vue, devient un idéal. Et ça vient d'Amérique. À mon avis, ça vient d'une expérience qu'ils ont eue, que les chefs des Indiens ne sont chefs que dans la mesure, et jamais une fois pour toutes. Ils sont reconnus comme tels. Donc, c'est pas du tout ce qu'ils ont essayé. Et que ça a traversé l'océan, mais en se remettant sur le mot grec de l'agora, et en oubliant que chez les Indiens, c'était pas du tout de l'agora. Donc c'est redevenu vulnérable à tout ce que les Grecs avaient critiqué pour dire que la démocratie, c'était finalement pas tellement ça.
Et donc, qui serait ? Qu'est-ce qu'on pourrait nommer ce que les Grecs ont critiqué ?
Les Grecs enfin, Platon a été le pire, mais chez les Grecs... les effets de séduction, les effets de terreur, les effets d'influence, les effets de conformité, etc., étaient un très gros défaut dont on ne voyait pas comment tellement y remédier.
Et donc, et par contraste, dans la situation des powwows ou des...
Si on parle d'art de composition, c'est justement que l'ensemble de ces effets font partie du problème auquel l'art de composition s'adresse. On ne va pas avoir les mêmes effets de séduction si on parle en présence d'ancêtres ou des vents sacrés, de la même manière qu'on sera tenu sans que ce qu'on dit soit dicté. Être tenu sans être contraint, enfin, être tenu ou contraint sans être limité, Mais c'est un peu ce que j'ai vu avec le palabre. Ça rend les gens différents. Et ça rend leurs énoncés composables.